premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée au Second Empire à l'occasion de la grande exposition qui lui est consacrée à Paris ces temps-ci et que nous visiterons mercredi. Demain, pour leur documentaire, Anaïs Quin et Françoise Camard nous plongeront dans un bal du Second Empire. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'historien et confrère à France Inter, Xavier Mauduit, qui publie sa thèse, Le ministère du faste, chez Fayard, mais aussi chez Albin Michel, avec Corinne Ergas, flamboyant Second Empire. Puis nous accueillerons dans la deuxième partie de cette émission Nicolas Chaudin, dont le récit de la chute de Napoléon III, L'été en enfer, vient de sortir en poche dans la collection Babel, Acte Sud, luxe et chute du Second Empire, ce matin, donc jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, mais auparavant, 48e épisode de la série d'Anaïs Quin et Françoise Camard sur la guerre froide et quand le luxe supposé de l'Occident envenime les rapports entre Est et Ouest.
Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, uvažujeme i gosti. 27e sieste de
l'OSS. Sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros du combat de Tejan.
Placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba. Yes or no?
La fabrique de la guerre froide. Au cours de l'été 1956, l'équipe d'athlétisme soviétique se rend à Londres pour défendre son titre. Cette épreuve sportive se mue en scandale diplomatique après une séance de shopping sur Oxford Street.
Ici Jacques Salbert qui vous parle de Londres. Jamais une histoire de chapeau volé, ou soi-disant volé, n'a provoqué de tels remous. Cette histoire était rocambolesque, elle dépasse aujourd'hui les limites du ridicule. Je rappelle très rapidement les faits. Avant-hier, mademoiselle Nina Ponomareva, championne soviétique du lancement du disque, était arrêtée par la police anglaise sous l'accusation d'avoir volé 3 chapeaux, valant au total 1600 francs. Elle devait hier matin se présenter devant le tribunal de simple police. Le juge, après l'avoir attendue en vain pendant plus de 2 heures, lança un mandat d'arrêt contre elle, comme l'exige la loi anglaise. Scotland Yard se mit en chasse, mais ne trouva jamais trace de mademoiselle Ponomareva. Aujourd'hui, 100 000 Britanniques environ s'apprêtaient à se rendre au stade de White City pour assister à la première journée du match d'athlétisme Grande-Bretagne-Russie qui s'annonçait comme devant être sensationnel. Or, en fin de matinée, les Soviets annonçaient que par suite de l'infâme provocation dont s'étaient rendues coupables les autorités britanniques vis-à-vis de Nina, le match était annulé. Nous sommes donc en plein roman feuilleton. Cela prouve le danger qu'il y a à identifier le sport avec la propagande nationale. En attendant, les athlètes soviétiques jouent au billard dans leur hôtel avant de repartir pour Moscou. Que va-t-il advenir de Nina ?
Nina Ponomareva est une jeune athlète qui a commencé l'athlétisme en 1947 et qui a pour la première fois participé aux Jeux Olympiques en 1952 où elle a obtenu une médaille d'or. C'est une des championnes qui est le visage de la réussite sportive soviétique dès les Jeux Olympiques d'Helsinki et qui s'apprête à participer aux Jeux Olympiques de 1956 à Melbourne.
Sylvain Dufraisse.
Alors, elle s'apprête à participer à une compétition d'athlétisme entre l'équipe d'Union soviétique et l'équipe du Royaume-Uni. La délégation, qui est arrivée un petit peu plus tôt, a pu se promener. Et le soir du 29 août, la jeune Nina Ponomareva, avec ses camarades de délégation, se promène dans Londres, à Oxford Street, et ils sont dans un magasin CEA. où elle fait quelques achats, dont deux bérets, également un bonnet Angora. Et lors de ces achats, elle est interpellée par deux vendeuses qui auraient vu que Nina Ponomareva avait volé des chapeaux.
Pourquoi cette histoire de Nina Ponomareva dans ce CEA de Londres en 1956 devient une telle affaire diplomatique, Sylvain Dufraisse ?
Elle devient une affaire diplomatique d'abord puisque, une fois qu'elle est interpellée par les vendeuses du magasin, Nina Ponomareva est ensuite arrêtée en fait par la police, mais les représentants de l'Union soviétique ne l'entendent pas ainsi. Ils contactent alors les représentants du Foreign Office pour voir ce qu'il est possible de faire avec ce procès. Est-ce qu'il est possible de le reporter, de l'annuler, et est-il possible également de ne pas donner de publicité à cet événement ? C'est l'image de l'Union soviétique qui est en jeu avec cet événement. Les diplomates britanniques refusent de s'ingérer dans les affaires de la justice et décident de laisser la justice britannique suivre son cours. Et la délégation soviétique, finalement, décide de se retirer du match et de ne pas concourir. Donc l'ensemble des athlètes, sans Nina Ponomariova, repart pour Moscou. La lanceuse de disques reste dans l'ambassade. Elle est finalement jugée, beaucoup plus tard, en octobre, et elle reçoit une amende de 8 livres 82. Ce qui a donné de la visibilité à cet incident, c'est le meeting international. Et puisque le meeting a été annulé, les journalistes internationaux vont se saisir en fait de cette affaire et vont mener campagne contre l'Union soviétique. Dans la Pravda, on annonce une sale provocation préparée de longue date par des cercles contre-révolutionnaires. Et donc là, on voit que cet événement est interprété d'un point de vue politique. D'un côté, la presse occidentale va montrer en fait combien Nina Ponomareva, par ce larcin, démontre en fait l'avidité de biens matériels occidentaux, le désir en fait d'accéder à une société de consommation auquel les soviétiques n'ont pas accès. Et inversement, les soviétiques vont montrer que lorsque leurs sportifs sont au front, ils peuvent être victimes de dangereux contre-révolutionnaires qui vont les tenter dès qu'ils sont dans ces moments de loisirs, dans ces moments de visite.
Donc on arrive véritablement à un récit qui s'installe dans la sphère médiatique de frustration finalement du peuple soviétique par rapport à cette société de consommation qui ne leur serait pas accessible de l'autre côté du rideau de fer.
Totalement. En fait, les visites des sportifs dans les grands magasins vont permettre de montrer combien les soviétiques sont frustrés par le faible accès aux biens de consommation. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est comment, à travers cet événement, s'opposent deux modes de consommation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les autorités sportives soviétiques vont se saisir de cet événement pour renforcer le contrôle des délégations sportives soviétiques. Par exemple, pour les Jeux Olympiques de 1956, les autorités sportives vont donner une forme de cahier des charges à leurs sportifs qu'ils doivent respecter.
Alors, une charte de bonne conduite.
Une charte de bonne conduite qui prescrit des comportements. Alors par exemple, ils doivent être très attentifs avec les jeunes femmes, être polis, ne pas être insultants. Mais ils doivent aussi bien tenir leur chambre, ne pas fumer à l'intérieur de leur chambre dans le village olympique. Et ils doivent tourner cette fois leur langue dans la bouche quand ils doivent parler avec des étrangers. Il leur est indiqué aussi qu'ils doivent avoir des cheveux bien peignés et des chaussures bien cirées. Ils doivent montrer une belle apparence de l'Union soviétique. Mais à l'intérieur de cette charte de bonne conduite se glissent également d'autres points. Par exemple, ces visites dans les grands magasins n'auront pas lieu avant les compétitions. Elles auront lieu après les compétitions. Et l'argent de poche qui est distribué aux sportifs soviétiques quand ils partent à l'étranger est donné à la fin des séjours à l'étranger et non plus au début, comme cela avait été le cas à Londres.
Voilà donc pour ce 48e épisode de La Fabrique de la Guerre Froide, préparé par Anaïs Quin et Françoise Camard, que vous pouvez télécharger séparément de l'émission du jour pour garder toute la série avec vous. Bonjour d'ailleurs, Anaïs Quin.
Bonjour.
Alors vous avez deux passions dans la vie, c'est bien d'autres évidemment, mais la guerre froide.
Puisque, le tricot.
Voilà, et aussi le Second Empire.
Absolument.
Et c'est une passion non partagée par la plupart des Français. Bonjour Xavier Mauduit.
Bonjour.
C'est quand même une période, et on en parlait avec Anaïs Quin en préparant cette série d'émissions, assez mal connue.
Ah oui.
Si on pense aux personnalités qui, à part Eugénie et le comte de Morny et peut-être Prosper Mérimée, tournent autour de la cour impériale, je défie quiconque, et d'abord moi-même, de se souvenir du nom d'une des personnalités ou d'un des ministres, peut-être le dernier, Émile Ollivier, mais des ministères de Napoléon III.
Et paradoxalement, le Second Empire est la période qui a fait naître énormément de nos artistes qui forment le patrimoine national. Parce que quand on y réfléchit bien, Monet, Renoir, on pourrait même mettre Rimbaud qui crée son imaginaire de jeune homme, d'enfant sous le Second Empire. Et puis pour la littérature, c'est énorme. Hein. C'est Flaubert, Madame Bovary, Les Fleurs du Mal. C'est-à-dire que tout ce que l'on apprend à l'école...
Baudelaire. Enfin, ils sont quand même un peu chahutés par le Second Empire.
Ils sont chahutés, mais malgré tout, tous ces artistes créent leur monde, leur imaginaire sous le Second Empire.
Anaïs Quin.
Et puis, il y a aussi, on doit à cette période, notre manière d'être en ville. Alors, Haussmann, évidemment, mais ça, j'imagine que c'est le point le plus connu, peut-être, de cette période, mais notre manière d'être en ville, de nous promener en ville, de lécher les vitrines, d'aller visiter les ateliers d'artistes, ce genre de choses-là, c'est vraiment une manière d'être au monde urbain que l'on doit au Second Empire.
Tout à fait, c'est-à-dire que le Second Empire, qui a duré quand même 18 ans, c'est long 18 ans, hein, met en place des codes qui ensuite sont repris sous la République, mais repris non pas de manière politique, la politique n'a plus rien à voir là-dedans, c'est-à-dire que ce sont des codes sociaux qui deviennent communs à l'ensemble des élites, hein, qu'elles soient de la vieille aristocratie, qu'elles soient de la noblesse d'empire, qu'elles soient de cette nouvelle élite qui est celle de la finance et de la banque et de l'industrie. L'élite trouve des codes sociaux à peu près communs et ça leur va très très bien. Et puis l'ensemble de la population qui copie toujours les postures des dominants, ben font de même. Et c'est vrai que la manière de manger, telle que on la connaît, la manière bourgeoise de servir un repas, est mise en place sous le Second Empire.
Alors, vous avez fait votre thèse, donc Xavier Mauduit, sous la direction de Christophe Charles, sur le ministère du faste, c'est-à-dire la maison de l'empereur sous Napoléon III. Et elle vient d'être publiée chez Fayard. Et vous nous dites bien qu'il y a là à la fois une matrice, mais aussi une différenciation par rapport à ce que l'on connaît, c'est-à-dire c'est la dernière cour qu'a connue la France, puisqu'ensuite les républiques vont se succéder. Et il n'y a pas de cour à partir de ce moment-là en France.
Voilà, on peut mettre une petite nuance. Il n'y a pas de cour officielle, parce que c'est vrai qu'autour de chaque personne qui détient le pouvoir, on a une cour qui naît naturellement. Mais vous avez parfaitement raison, Emmanuel, il n'y a pas de cour après le Second Empire. C'est la dernière cour qu'a connue la France. Et dès lors, elle devient un modèle, parce que la cour sert de modèle. On copie la cour et on copie les usages. C'est la cour du Second Empire, une cour itinérante, c'est intéressant ça aussi. Hein. Elle n'est pas simplement basée à Paris, elle se déplace à Compiègne, à Fontainebleau, Biarritz évidemment, Vichy aussi. Cette cour itinérante est regardée par tous, et comme elle sert de modèle et comme elle est copiée, et surtout comme elle est efficace, cette cour a laissé son empreinte au Second Empire, au point qu'on résume très souvent le régime à simplement l'expression « la fête impériale ».
Anaïs Quin.
Mais justement, à travers l'histoire de cette cour, une histoire très, très sociale, mais aussi très administrative, en fait, finalement, vous proposez une histoire des employés du protocole impérial, Xavier Mauduit. On touche aussi à ce qu'est ce régime. Peut-être que c'est le moment d'expliquer, justement, puisque cette période et ce régime autoritaire qui devient libéral est si mal connu de l'histoire de France, d'interroger un peu la nature de ce régime qui commence par un coup d'État, qu'on dit social à la fin, qu'on dit libéralisé, mais en même temps qui commence par une grande période autoritaire. Qu'est-ce que ce régime qui hybride finalement tout un héritage français en tentant de travailler sur un rapport très pragmatique aussi au contexte dans lequel s'inscrit le règne de Napoléon III?
Vous savez, le régime qu'est le Second Empire se met en place en fait avant le Second Empire, parce que Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République, notre premier président, en décembre 1848. Et ces années sont pour moi fondamentales. Je les ai d'ailleurs étudiées dans le livre associé au Second Empire, parce que les années de la République sont celles où se mettent en place tous les codes que va utiliser ensuite Napoléon III pour mettre en œuvre sa politique qui, d'après moi, est utiliser le faste, fasciner pour apparaître encore plus légitime. Vous l'avez rappelé, Anaïs, que ça commence quand même par un coup d'État. C'est dur de paraître légitime quand on commence son histoire par un coup d'État.
Et surtout quand on a des écrivains comme Victor Hugo qui vont vous tailler des croupières pendant toute la durée de ce règne.
Hein, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais si on se remet un petit peu en 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président. La République est toute nouvelle. La République, évidemment, n'a pas l'adhésion des élites. L'orléanisme reste fort. Et dans la proposition politique bonapartiste, il a besoin de rallier à la fois l'élite, mais également le peuple.
Alors c'est compliqué parce que Louis-Philippe soi-même, après la révolution de 1830, avait dû rallier les vieux légitimistes qui avaient évolué entre-temps, les républicains issus de la Révolution française. Donc on voit bien qu'il y a des régimes qui sont des régimes qui tiennent beaucoup à l'hybridité des parcours de ceux qui les servent. Et vous racontez, puisque vous faites la prosopographie, comme on dit, de beaucoup des serviteurs de la maison de l'Empire, comment il va récupérer, dès 1849, il va récupérer certaines personnes qui tiennent au régime de Louis-Philippe et d'autres qui remontent par leur filiation au régime de son oncle, donc Napoléon Ier, pour pouvoir fabriquer ce régime impérial qu'il va créer à partir de son coup d'État en 1851.
Napoléon III se considère comme la synthèse de l'histoire de France. Ce n'est pas le seul, ce n'est pas le premier, il faut toujours se méfier de l'effet prisme, hein, loupe quand on étudie son sujet, parce que c'est vrai que c'est à peu près tout le temps comme ça, on veut se montrer comme l'aboutissement d'une longue histoire de France. Mais quand il est à la présidence, à l'Élysée, Louis-Napoléon Bonaparte a compris quelque chose qui a été d'une efficacité redoutable. Il n'a pas pu, comme son oncle, revendiquer des victoires militaires éclatantes. La légitimité dans la famille n'a pas été une évidence. Il a fait quand même 6 ans de prison. C'est quand même très long. 2 tentatives de prise du pouvoir complètement foireuses à Strasbourg et Boulogne. Mmh. Donc, c'est compliqué. Et quand il prend en main l'Élysée, avec les moyens conséquent, mais malgré tout modeste, que lui offre à ce moment-là le pouvoir, il a juste un traitement, il reçoit un traitement de 600 000 francs, il met en place des fêtes magnifiques. Et ces fêtes magnifiques vont avoir 2 effets, elles vont fasciner le peuple, ce qui facilite l'adhésion, et elles vont rallier les élites qui vont trouver à l'Élysée la possibilité de mettre en œuvre tout simplement leurs codes sociaux. Quand on est une élite du 19e siècle, ne serait-ce que pour les mariages, pour les rencontres, pour tous les réseaux, il faut un lieu qui existe lié au pouvoir où l'on peut se réunir et faire la fête. Et Louis-Napoléon Bonaparte, président, propose ça.
L'éclat qui rehausse le trône rejaillit sur toutes les nations, explique un auteur de 1865 à propos justement de cette fête impériale. Anaïs Quin.
Et vous avez travaillé sur cette histoire administrative de cette gestion de cette masse d'argent que l'on verse à l'empereur, ce qu'on appelle la liste civile. On dote finalement le monarque pour éviter la confusion entre le budget d'État et le budget de la maison du régnant. Vous avez travaillé sur la façon dont cet argent va être utilisé, dont les représentations aussi vont jouer un rôle majeur dans la manière dont ces employés, qu'ils soient aristocrates ou qu'ils soient domestiques venus du petit peuple, vont mettre en œuvre tout un tas de mises en scène, d'idées, d'idéaux, d'idéologies, pour créer ce décor impérial. Et c'est là que commence un petit peu aussi cette complexité, c'est-à-dire que on arrive à un moment où on voit se mettre en scène à la fois les vertus aristocratiques, mais aussi ce qui peut plaire au petit peuple pour unifier une nation sous l'égide d'un idéal bonapartiste enfin réalisé d'une certaine façon.
Oui, mais il y a quelque chose de schizophrène dans le bonapartisme. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une dynastie et à la fois, il y a le besoin du soutien populaire qui s'exprime par les élections et le plébiscite.
Ah, oui, c'est la sus consulte, etc., etc.
Complexe, hein, cette histoire-là. Mais vous avez raison de souligner l'importance de l'argent parce que la liste civile, donc cette somme qui est votée, c'est une loi qui est la dotation donnée au souverain est de 25 millions de francs sous le Second Empire. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette somme est la même que celle qui avait été donnée à Louis XVI en 1791, puis à Napoléon Ier, à Louis XVIII, à Charles X. Tous avaient eu les 25 millions. Mais l'image de ces différents règnes n'est pas la même que celle du Second Empire qui a réussi à exposer le face. Donc la question était de savoir comment, avec la même somme d'argent et un personnel à peu près équivalent, Napoléon III a su mettre en éclat son régime et faire la fête.
Comment, justement ?
Il a surtout réussi à, avec peut-être son cheminement de vie, avoir à côté de lui une impératrice très jeune. Il faut imaginer que quand il devient empereur en décembre 1852, il n'est pas marié. Il n'est pas marié, il est célibataire.
Un vieux célibataire.
Exactement. Bon, même s'il a beaucoup de conquêtes, et ça se sait autour de lui. Ils sont tous jeunes, tout son entourage est jeune, et bon, il se marie un mois plus tard, en janvier 53, avec une jeune Espagnole. Vous savez, cette idée du mariage d'amour, hein, non pas une princesse autrichienne ou russe. Non, une comtesse espagnole qui a 27 ans, il en a 45. Dans cette volonté de créer une image, pour utiliser un mot anachronique, un peu glam du pouvoir, c'était une vraie réussite. Et avec l'argent, on met en place des fêtes qui ne coûtent pas si cher que ça, où il y a beaucoup de jeunesse.
Rien n'est à construire, tout est à restaurer, dit-on à cette époque-là. Donc avec cette idée qu'on restaure un régime tout en construisant un nouveau régime, parce que c'est aussi cela, dans cette espèce de lien avec le passé qui sera très fort sous Napoléon III. Mais vous expliquez, Xavier Mauduit, tout de même que, disons, une vieille noblesse en particulier trouve tout ça un peu trop clinquant. et que le boulevard Saint-Germain, qui est donc le lieu de résidence de beaucoup des nobles d'Ancien Régime, eh bien ce boulevard Saint-Germain considère qu'on a remplacé l'argent par des substituts, et que tout cela c'est un petit peu une sorte de succès d'année de ce que devrait être un régime impérial ou royal.
Oui, parce qu'il y a un regard un petit peu méprisant du boulevard Saint-Germain sur la fête impériale et le Second Empire, mais malgré tout, Napoléon III bénéficie, j'ai envie de dire, de la monarchie de Juillet. Les légitimistes du boulevard Saint-Germain déteste tellement les orléanistes que ce Bonaparte-là, tant qu'à faire, pourquoi pas, surtout qu'il a l'air beaucoup plus gentil que son oncle, il est beaucoup moins guerrier, et puis l'image qu'il propose leur convient, c'est-à-dire que en 18 ans, des codes sont mis en place auxquels doivent adhérer les différentes élites, et ces codes-là correspondent un petit peu à leurs attentes, c'est très simple, hein. Un hôtel particulier à Paris avec des domestiques, une résidence, donc un château, c'est très bien, en province, des allers-retours comme ça, des fêtes, des salons. Et à partir de là, une fois que tout est respecté, des manières d'être et de faire, on correspond à l'élite que propose Napoléon III.
Anaïs Quin.
Et pourquoi ça marche si bien, Xavier Mauduit ? Parce que là, lorsqu'on regarde ce spectacle impérial, on voit beaucoup de proto-vacances d'une certaine façon, c'est-à-dire des moments de villégiature, une démultiplication comme ça des résidences secondaires aristocratiques, énormément de fêtes, énormément de décorations, de célébrations, de bals, de tout ce qu'on peut imaginer comme festivités joyeuses. Finalement, là, on a une image du bonheur, une certaine image du bonheur qui manque peut-être un peu au peuple français à ce moment-là, mais un bonheur très, très aristocratique dans sa nature.
Même si la croissance économique permet à l'ensemble de la population d'avoir, alors la sensation ou la réalité, je ne sais pas, sans doute la réalité, d'une augmentation de ce qu'on appellerait le niveau de vie. C'est-à-dire qu'on mange un petit peu mieux quand même. Les transports, notamment, enfin le chemin de fer surtout, permet l'arrivée d'aliments venus de loin. Ça facilite, je ne sais pas, pour le vin, par exemple, le vin est meilleur parce qu'on peut faire venir du vin plus facilement du sud. Il y a les vêtements aussi, hein, l'industrie... C'est la révolution industrielle qui rentre vraiment en France, donne le sentiment.
Les expositions universelles
donnent en fait le sentiment de la gloire de la France. Alors ça plaît beaucoup aux Français, la gloire, le rayonnement de la France. Et puis l'idée qu'au quotidien, ça va un peu mieux, et même si ça va pas mieux tout de suite, l'idée que ça ira très vite beaucoup mieux. On est en période de croissance économique, et c'est là où la fête est intéressante. C'est-à-dire qu'un régime qui fait la fête, qui se permet d'aller en vacances, un souverain qui est entouré d'hommes en uniforme, tout ça est tellement réconfortant qu'on ne peut plus douter de sa légitimité. Quand ça ne va pas, on ne fait pas la fête.
Oui, mais néanmoins, c'est oublié qu'il y a des critiques sur la liberté qui manque. Et alors, peut-être, d'ailleurs, un des problèmes de ce Second Empire, c'est qu'on a eu soit des libelles contre lui et des textes extrêmement durs contre lui, soit au contraire une glorification de ce Second Empire modernisateur, et jamais de travaux qui, d'une certaine façon, faisaient le lien entre les deux, parce qu'effectivement, il y avait tous ceux qui, dans la foulée de Victor Hugo, voulaient la chute de ce régime, ou au moins son bannissement de la mémoire française, qui explique peut-être d'ailleurs pourquoi peu de gens le connaissent, ce régime, et de l'autre côté, ceux qui disaient, regardez, c'est l'industrie, c'est ce que vous expliqué d'ailleurs dans Flamboyant Second Empire avec Corinne Ergas, c'est l'industrie, c'est les nouveaux modes de vie, c'est une certaine aisance pour une certaine partie de la population qui n'était pas aisée auparavant, etc. etc. Xavier Mauduit.
Parce que la légende noire du Second Empire doit se comprendre par les attaques de la République, surtout après l'Empire, liées à l'efficacité du régime. C'est très très simple. Les républicains, surtout parisiens, veulent changer le régime, veulent renverser, veulent critiquer le régime, mais constatent...
Et tout au long du régime, d'ailleurs.
Tout au long du régime, mais constatent, en fait, un soutien assez massif de la population, comme le montre le dernier plébiscite hein, de mai 1870. On a encore un soutien massif. Donc, il faut...
7 millions de voix pour en faveur de Napoléon III.
J'ai retrouvé mon chiffre, dit Napoléon III, en évoquant le premier plébiscite au début du règne.
Mais vous notez aussi presque 2 millions d'abstentions, ce qui est conséquent.
Et puis, il faut surtout rappeler que ces élections sont un petit peu dirigées, hein, avec des systèmes de candidats officiels ou de soutien des préfectures pour orienter le vote vote lors des plébiscites ou des élections des uns et des autres. Mais la République a voulu réellement casser l'image du Second Empire, ce qui se défend, c'est tout à fait logique, dans le sens où nous sommes sous une dictature, donc c'est très bien, nous sommes républicains ici, donc il n'y a aucun souci là-dessus, mais casser le Second Empire parce que de plaie, bon, la perte de l'Alsace-Lorraine suite à la défaite face à la Prusse, et puis aussi parce qu'il y a le constat de l'efficacité et de l'attachement encore à l'empereur. On a bien aimé, globalement, notamment dans le monde paysan, cet empire. Et il fallait vraiment rompre ça, d'où la légende noire sans cesse alimentée.
Anaïs Kien.
Et d'ailleurs, vous indiquez que les aristocrates qui faisaient partie de cette maison de l'empereur vont être épurés, d'une certaine façon, au moment du passage à la République. Par contre, tous les domestiques vont rester et vont remettre en œuvre les mêmes codes de la spectacularisation, de la mise en scène du pouvoir pour la République.
C'est génial ce moment-là, parce que quand les républicains prennent le pouvoir, donc on est dans les années 1870, comme modèle, qu'ont-ils ? La deuxième République de 1848, le choix avait été fait à ce moment-là d'un pouvoir extrêmement sobre. On avait enlevé tout l'apparat.
D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont partis à l'étranger, ont vécu en Suisse, en Belgique ou à Londres, et reviennent à cette occasion-là.
Et ils ont très bien pu constater l'échec de la Seconde République par le manque de fait et d'apparat du pouvoir, ce qu'a récupéré Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République. Nous sommes en...
C'est pas simplement la seule raison.
C'est pas la seule raison. Mais pour réussir à attirer, à fasciner le peuple d'un côté, à attirer les élites, c'est vrai que ces fêtes ont bien marché, les fêtes et les voyages officiels. Nous nous trouvons en 1870. La République ne veut pas faire la même erreur. Tout ça, on n'est pas dans la pensée claire et écrite. Mais au pouvoir, nous avons quand même des gens qui sont très liés à la monarchie. Ce sont des MacMahon, quoi. Ça rigole pas. Le peuple vote encore largement pour la monarchie. Et puis, ces élites au pouvoir qui ont fusionné tous leurs codes sociaux pendant le Second Empire veulent continuer à les produire. C'est pour ça que la République reprend pour elle tout le faste impérial. Elle le prend dans ces années 1870. Et aujourd'hui encore. Hein.
Qu'est-ce que vous appelez fusionner tous les codes sociaux? Parce que c'est ce que vous expliquez très bien dans le ministère du FAS, mais peut-être pour nos auditeurs, n'ont-ils pas l'idée de ce que ça veut dire, justement, de cette fusion des codes sociaux autour de la personne de l'empereur et de l'impératrice?
Ou du président de la République.
Ou du président de la République. C'est-à-dire que quand nous sommes au début du 19e siècle, être un noble d'ancienne noblesse, être un noble de la noblesse impériale, être un grand bourgeois, et ça, c'est très important, notamment par rapport à ces nouvelles élites de la finance ou de l'industrie, signifie qu'on va pas se côtoyer. Un Rothschild, au début du 19e siècle, va avoir du mal à côtoyer un vieil aristocrate au nom clinquant. Napoléon III, pendant 18 ans, met en place un régime qui leur permet à tous de se croiser. C'est Rite Compiègne, par exemple, Alors les balles qui n'arrêtent pas, le Second Empire, régime de fête.
On en parlera demain dans le documentaire justement d'Anaïs Kien et de Françoise Camard.
Parce que c'est essentiel sous le Second Empire, mais essentiel du point de vue social et politique. C'est pas simplement la fête. Il y a un vrai rôle de mélange social de l'élite, évidemment. C'est-à-dire qu'en 1862, quand Rothschild inaugure son château de la Ferrière, c'est l'empereur lui-même, Napoléon III, qui vient, et Rothschild a la délicatesse d'habiller tous ses propres domestiques avec la livrée impériale. Il est complètement intégré. Et cette intégration des élites qui a lieu pendant les 18 ans du Second Empire fait que, quand la République est proclamée en 1870, elles ont déjà globalement fusionné. Donc, elles n'ont plus besoin de détenir complètement le pouvoir.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Une Fabrique de l'Histoire qui inaugure une série de La Fabrique jusqu'à jeudi autour du Second Empire. Nous venons d'entendre Xavier Mauduit, qui est auteur du Ministère du Faste, la maison de l'empereur Napoléon III chez Fayard, et également co-auteur avec Corinne Ergas de Flamboyant Second Empire et la France entra dans la modernité chez Armand Collin. Et nous accueillons maintenant Nicolas Chaudin. Bonjour Nicolas Chaudin.
Bonjour.
Grand connaisseur de ce Second Empire sur lequel vous avez beaucoup écrit et vous êtes encore en train d'écrire puisque vous préparez une biographie de Morny. Et on vous accueille pour la parution en poche d'un livre que vous avez publié en 2011 et qui s'intitule « L'été en enfer, Napoléon III dans la débâcle », publié chez dans la collection Babel, donc chez Actes Sud. Un livre qui est à la fois, vous l'appelez récit en l'occurrence, parce que ça n'est pas un roman, et vous tentez justement de mélanger, comme beaucoup d'écrivains de fiction et de non-fiction aujourd'hui tentent de le faire, des documents d'archives que vous prenez, des souvenirs et des mémoires, et vous tentez de tisser des dialogues autour de la chute de ce fameux Napoléon III, Nicolas Chaudin.
Oui, c'est-à-dire que tout est authentique, tout est fondé sur des témoignages qu'on n'avait pas explorés jusqu'alors, mais le déroulement des événements est tellement spectaculaire, est tellement précipité, la spirale est tellement irrésistible, que d'une certaine manière, ce sont les événements eux-mêmes qui donnent une tension romanesque à l'épisode.
C'est une histoire de 4 mois ou de 5 mois, en l'occurrence.
Même, oui, à peine. En fait, la campagne impériale a duré 6 semaines. Et en fait, j'étais parti de ce constat, c'est que dans nos livres d'histoire, quand on évoque la campagne de 1870, on l'évoque du simple fait du désastre, enfin du point de vue du désastre, de la perte des provinces, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Mais jamais on évoque la personnalité de l'empereur. Il y a toujours cette phrase un peu allusive, et l'empereur, malheureux, chercha désespérément la mort sur le champ de bataille qui lui éviterait la honte de la capitulation. Tous les livres d'histoire ont dit à peu près la même chose. Mais personne ne s'était intéressé à l'odyssée misérable de Napoléon III pendant cette campagne de 6 semaines.
Misérable, effectivement, parce qu'il est en mauvaise santé, il est malade, et il est en discussion permanente avec son entourage, et en particulier avec son épouse, sur la façon de répondre aux prétentions prussiennes et allemandes, donc sur le gouvernement de l'Europe. Et il est très mal, on le voit, en tout cas vous le décrivez comme tel, mal physiquement et mal moralement, parce que c'est un homme qui n'aime pas la guerre, expliquez-vous, et qui va devoir la faire.
C'est un homme qui n'est pas doué pour la guerre. Parce que même les campagnes victorieuses du règne, la guerre de Crimée, la guerre d'Italie, sont des, d'un point de vue militaire, c'est assez pitoyable. Ce sont des victoires arrachées au prix de pertes colossales. Ce ne sont pas des victoires fulgurantes, et comme l'a dit Xavier Mauduit tout à l'heure, il n'a certainement pas la légitimité militaire de son oncle. Mais c'est un homme qui souffre, parce que c'est un homme qui est à l'article de la mort, véritablement. Il faut savoir que la veille de la déclaration, grosso modo, quand surgit la crise d'Espagne qui va déclencher le processus de la guerre de 1870, quand cet événement surgit, Napoléon III est sur le point de se faire opérer de la maladie de la pierre, c'est-à-dire qu'il a un calcul vésical. Un calcul vésical qui est gros comme un calot d'agate, si vous voulez, qui lui obstrue la vessie. Cet homme souffre la mort. L'opération qu'il doit subir, qui consiste à briser cette pierre de calcaire et pour l'évacuer par les voies urinaires, qui plus est, cette opération est extrêmement dangereuse, extrêmement risquée. Des sommités y ont laissé la peau, dont le maréchal Niel, réformateur de l'armée française, etc., etc. En plus de ça, c'est un homme qui est mortifié à l'idée de devoir faire la guerre. Il a été entraîné par son ministre des Affaires étrangères, Gramont, le bœuf, on l'appelle et sa femme, Eugénie, qui après avoir été un atout pour le règne, devient un des poisons du règne, on peut le dire sans exagération. Et cet homme est à la fois désemparé, épuisé, et le désastre militaire le traîne sur des chemins boueux dans des conditions sanitaires misérables.
Anaïs Kien.
Quel sens vous donnez à cette agonie? Parce que finalement, c'est une agonie sur 200 pages que vous proposez ici.
Que je propose, oui. Non, que je relate, mais c'est-à-dire que...
Que vous mettez en scène, que vous remettez en scène littéralement.
Voilà. C'est-à-dire que... Comment dirais-je, de conclusion morale de cette agonie, il y en a guère à donner. Je n'explique rien, je ne justifie rien. Je raconte juste que la France est partie à la guerre, malgré la volonté d'un empereur malade, trop malade pour imposer la sienne, qui était celle de préserver le trône pour son fils, qui était à 4 ans.
C'est une obsession. Cette idée qu'en 1875, ça y est, il pourra partir et que son fils sera sur le trône.
Exactement.
Et qu'il aura ainsi fait son travail.
Et c'est une obsession d'autant plus tenace que la légitimité de Napoléon III est contesté, qu'il le sait lui-même. Est-il le fils de son père lui-même? Il n'est que le cadet. Son frère aîné est mort en Italie pendant les révolutions républicaines. Et Napoléon III a un sentiment de légitimité très fragile, hein, toujours. Autour de lui, il n'y a que des « bâtards », entre guillemets, à commencer par son demi-frère, le duc de Morny. Et président du corps législatif, ce qui n'est pas rien, quand même. Et donc, Napoléon III est obsédé par la légitimité. Il sait aussi que l'impératrice, si elle est régente, risque de heurter le peuple, heurter aussi les parlementaires, car elle est très anti-parlementaire. Et donc, son plan, entre guillemets, est de survivre jusqu'à la majorité du prince impérial, dans un climat de paix préservé à tout prix, pour que la dynastie puisse s'installer. Et puis patatras, le duc de Gramont, qui est aussi diplomate que moi, je suis obstétricien, et l'impératrice Eugénie vont tout faire pour... Enfin, vont commettre toutes les maladresses qu'il faut pour qu'une guerre se déclenche entre la Prusse et la France.
Anaïs Kien.
Il y a quelque chose qui vous réunit tous les deux, Xavier Mauduit et Nicolas Chaudin, c'est cette grande impression de familiarité entre notre époque contemporaine et le Second Empire. Alors, sous des registres très différents, on a parlé, Xavier Mauduit, de ce recyclage par la République des bonnes stratégies du Second Empire et de ce mode de vie bourgeois qui fait encore modèle aujourd'hui, finalement. Et vous, Nicolas Chaudin, vous êtes dans un autre registre, vous profitez de cet ouvrage pour pulvériser finalement la vie politique contemporaine. Vous dites à la dernière page, la grossièreté de nos mœurs politiques, leur attirail bling bling, surclasseront pour toujours la vulgarité présumée de la cour impériale. Napoléon III reparaît en champion des nationalités, en homme fort par lequel aurait pu, dans la paix, arriver la démocratie. D'où vient cette grande familiarité? On est quand même sous une dictature, Xavier Mauduit.
Non.
Ce régime est quand même parvenu grâce à un coup d'État. Ça,
on pas, en 70, pas en 70.
Là, non, mais en 52.
Oui, en 52. Mais ce que je dis dans cette fin d'ouvrage, c'est que le régime, il est vrai autoritaire, il est vrai accouché d'un coup d'État. Ce régime-là a néanmoins installé une démocratie parlementaire, ou en tous les cas proto-parlementaire, assez proche de notre 5e République. C'est-à-dire, il y a un Parlement qui fonctionne.
C'est un régime qui se transforme.
C'est un régime qui se transforme à la fin, sous la pression des urnes, hein, du reste, ce qui est déjà un symptôme. Vous parlez d'une dictature. Une dictature qui finit par se transformer sous la pression des urnes, c'est bien qu'elle porte en elle quelque chose de démocratique.
C'est pas tout à fait la promesse d'une dictature, quand même, au départ.
Au départ. Non, c'est pas la promesse d'une dictature, non. C'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que la dictature elle-même, dès son origine, a une tentation démocratique. Xavier Mauduit, je crois, a utilisé une formule dans le catalogue de l'exposition Second Empire. Il parle de césarisme démocratique.
Oui, c'est ça, le césarisme, oui.
Et en fait, la légitimité de Napoléon III, ça n'est pas la guerre, on l'a dit, ça n'est pas non plus son allant face aux députés, il a une élocution assez médiocre, c'est un piètre orateur.
Sa légitimité... Il a un accent allemand.
oui, suisse-allemand. Sa légitimité, c'est le peuple, il ne cesse de le dire, et c'est pourquoi il s'appuie sur l'avis du peuple à chaque fois qu'il s'agit de prendre une grande décision par des senatus consultes, par des plébiscites, etc. Certes, plébiscites orientés, mais tout de même... À la fin du régime, en revanche, sous la houlette de Émile Ollivier, un républicain rallié au régime, s'instaure une véritable démocratie, une démocratie qui n'est pas aussi ouverte que la nôtre aujourd'hui, mais c'est une démocratie, elle s'installe par la volonté acharnée de Napoléon III, et le régime qui va courir au désastre face à l'Allemagne, c'est une sorte de monarchie républicaine.
Tout de même, ce qui est quand même extraordinaire, c'est combien, je le disais tout à l'heure, Xavier Mauduit, ce personnel autour de l'empereur, ce personnel politique est, je ne sais s'il est médiocre, en tout cas, est peu connu.
Ah oui.
Mocquard, Bure, Conneau, Persigny, Fleury, Léty, Forestier, Briffaut, Lepic, Ney, alors si ce n'était pas le fils de l'autre, peut-être qu'on n'aurait pas retenu son nom pour donner un nom de boulevard à Paris, Larrey, même chose, Gramont, tous ces gens-là sont des gens qui sont passés à la trappe de l'histoire, pourrait-on dire. Il y a autour de lui des personnages qui, alors, sont-ils importants? Est-ce la République qui en a bafoué la mémoire? ou ne le sont-ils pas? C'est quand même une vraie question qu'on peut se poser, Xavier Mauduit, et puis je poserai la même question à Nicolas Chaudin.
Ce que je me suis posé pour vous dire, honnêtement, quand j'ai commencé cette thèse sur la Maison de l'Empereur, je me suis dit, la Maison de l'Empereur régalade, hein, que des grands noms, je vais trouver des petites biographies absolument partout dans des dictionnaires, ça va être formidable, je vais faire ma prosopographie. Rien, alors à part certains évidemment qui ont été largement étudiés, mais rien, le néant. Et en fait, il a fallu repartir directement aux sources, hein, aux états civils, enfin la démarche classique de l'historien pour tous ces gens. Et effectivement, c'est un étonnement de se dire pourquoi ces dignitaires, même pour certains de l'Empire, des personnages de premier plan, quand vous lisez la presse sous le Second Empire, ils apparaissent partout. Pourquoi ces gens-là n'ont pas laissé de traces? En fait, il y a un phénomène aussi générationnel, c'est-à-dire que quand ils arrivent, ils ont une 30 ans, 40 ans à peu près.
C'est une cour assez jeune, quand même.
C'est une cour assez jeune. Ça, le Second Empire dure 20 ans. Ils ont la soixantaine. Ils se retirent tous dans leur campagne et disparaissent comme ça et on les oublie. Et sous l'Empire, c'est vrai qu'il ne reste que des noms qu'on associe à des fonctions. Madame Le Breton, lectrice de l'impératrice, et on en est très content.
Et d'ailleurs, l'impératrice va vivre jusque dans l'entre-deux-guerres. Ça, c'est très étonnant quand on s'en rend compte. Eugénie, jusque dans l'entre-deux-guerres, continue à agir. D'ailleurs, elle se consacre à énormément d'œuvres caritatives. Elle écrit beaucoup.
Mais tout à fait, parce que ce qu'a fait Nicolas Chaudin, en choisissant l'été, l'automne 1870, c'est de se plonger dans un moment extraordinaire de l'histoire, dans le sens où nous aimons l'histoire parce que on nous raconte des histoires. Mmh. Et là, on est sur une tragédie fabuleuse. Le Second Empire, pour ceux qui voudraient avoir des images en tête, c'est Sissi l'impératrice. Mais c'est vraiment, c'est ça, les palais impériaux ressemblent à beaucoup à Sissi l'impératrice. À chaque fois que je le vois, je retrouve mon personnel de la maison de l'empereur. Et se dire que tout ça s'effondre en l'espace de quelques semaines, dans des conditions dramatiques, Nicolas Chaudin évoquait la souffrance de l'empereur et cette impératrice qui quitte la vie, l'exil, la mort de son mari, la mort de son fils en 1879, le prince impérial, et elle est toujours là jusqu'en 1920.
Nicolas Chaudin, autour de
vous. Oui, vous évoquez qui est là une série de noms, ce ne sont même pas d'ailleurs les cadres de l'Empire, ce sont les proches de l'empereur, les proches de sa maison impériale, mais Eugène Rouher par exemple, qui a été probablement l'un des atlantes du régime.
Absolument.
Eugène Rouher, lui, est passé à la trappe. Il y a quand même des personnages qui sont fondateurs dans le régime, fondateurs du régime qui ont passé des siècles. Enfin, qui sont en tout cas encore présents dans nos mémoires, c'est le cas de Morny, par exemple. Mais ce qui s'est passé, ce qu'a laissé entendre Xavier Mauduit à l'instant, c'est qu'en fait, quand ils sont recrutés par Napoléon III, ou en tout cas par le futur Napoléon III, ces gens sont effectivement très jeunes, ils viennent de nulle part. La plupart d'entre eux sont des gens dont l'identité même est douteuse. C'est le cas de Persigny, Victor Fialin, comte puis duc de Persigny. Fialin sort de nulle part.
Il y a des pseudo-comtes aussi. Ouais.
Un véritable aventurier. Ouais. Le maréchal de Saint-Arnaud n'est pas du tout de Saint-Arnaud, etc. Morny lui-même, petit-fils de Talleyrand et fils du comte de Flahaut, s'appelle...
Naturel.
Voilà, est un personnage qui sort de l'obscurité, si vous voulez. Donc ces gens, non seulement sont jeunes, mais ces gens n'ont pas d'antécédents. L'Empire ne va durer que 20 ans. Quand ils vont arriver aux affaires, ils auront une petite trentaine. Et à 50 ans, c'est-à-dire au moment où le régime s'effondre, ces gens ne peuvent même pas se recycler dans la République. La République ne voudra pas d'eux. Donc, en fait, leur apparition est très brève. Et au moment où ils devraient resplendir au sommet de leur carrière, c'est exactement à ce moment-là qu'on les évacue. Et c'est aussi pourquoi on les a tous complètement oubliés. Et puis après, l'historiographie républicaine a fait son œuvre en expliquant la médiocrité du personnel impérial. Mais cette médiocrité, elle n'est pas avérée. Ces gens-là se sont donnés au bien de l'État, même si parmi eux, il y a quelques prévaricateurs notables.
Quelques aventuriers.
Voilà, mais on peut pas dire que Victor Duruy est failli à sa tâche. On ne peut pas dire que Eugène Rouher est failli à sa tâche.
On cite toujours Lavis pour la grande histoire de l'histoire de France, mais effectivement, Duruy est celui qui pose les bases de ce que va devenir justement l'histoire de France pour les enfants, en particulier à l'école.
Victor Duruy, qui est quand même le ministre de l'Instruction publique, qui met en place des réformes scolaires fondamentales, il est également précepteur, en partie, pas précepteur exactement, il donne des leçons d'histoire au prince impérial, sous la République disparaît de l'autorité. Et pourtant, il est toujours là, Duruy, mais en coulisses, et les lois Ferry, sont quelque part la suite des lois du Ruy. Et du Ruy est là.
Oui, ces gens-là sont évacués du pouvoir. Ils restent quand même présents et parmi les élites de la République.
Voilà, il y en a quelques-uns qui restent présents.
Oui, et ce qui est très important, par exemple, le chantier haussmannien, qui a une importance politique qu'on ne reconnaît jamais assez. Hein. Ça n'est pas seulement la réformation d'une ville, c'est le masque du règne que l'on tisse à travers le nouveau réseau parisien. Eh bien, quand Haussmann est destitué en janvier 70, au moment où s'installe l'Empire libéral, quand Haussmann est destitué, on pourrait croire que tout est fini, que toutes ses équipes vont être limogées et qu'on ne va pas garder seulement vraiment les tout petits, les petits artisans. Eh bien, la République, quand elle sera fermement installée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les principaux cadres de l'équipe haussmannienne, c'est-à-dire Alphand, celui à qui on attribue les mérites de des jardins parisiens, Alphand, donc Daviou, Belgrand, tous les cadres supérieurs, si je puis dire, de l'équipe haussmannienne vont être
recyclés,
embauchés par la République et vont conduire jusqu'en 1891 pour Alphand. Je ne sais pas si vous imaginez la longévité de 71 à 91. C'est le principal collaborateur d'Haussmann qui va poursuivre le chantier haussmannien sous la République.
Et la grande vertu peut-être de ces gens qui partent pour certains à la retraite de façon précoce avec la disparition de l'Empire, c'est qu'à un moment ou à un autre, sous la République, ils se diront que l'Empire était beau 20 ans plus tôt. Ils vont écrire des mémoires dont s'est servi Nicolas Chaudin. Ils vont écrire des journaux intimes. Ils vont les publier dans les années 1880, 1890. Et ça vous servira à vous, historien Xavier Maudu, pour faire votre travail de thèse.
Exactement. Merci beaucoup à eux. Il se passe un phénomène assez rigolo, c'est parce que quand on va aux archives de la préfecture de police, on trouve tous les comptes rendus, vous savez, des rapports de police qui suivent les gens dans la rue. Puis très vite, la police, enfin très vite, au bout de quelques dizaines d'années, la police se rend compte que non, c'est bon, il n'y a plus aucun risque. Tous les gens de la maison de l'empereur, du Second Empire, ne sont pas une menace. Peut-être de petits nouveaux bonapartistes peuvent être un petit peu dangereux, mais voilà. Tous sont rentrés dans leur maison, dans leur château, dans leur hôtel. Ils sont très contents, écrivent leur mémoire pour défendre le Second Empire et contrer la légende noire. Et moi, ça alimente tout mon travail.
D'ailleurs, il y a une histoire tout à fait croquignolette qui ouvre l'introduction de votre ouvrage. Madame Carrette, dès 1891, se défend de cette légende noire du Second Empire.
Une dame du palais.
En répondant à une critique parue dans les colonnes du Figaro. Cher monsieur, en lisant le nouvel article de monsieur Lanneau, j'étais tentée de prendre ma plume et de lui écrire. J'ai bien pensé à lui envoyer mes trois fils, qui sont trois solides gaillards, pour lui donner une bonne raclée, mais j'aime mieux leur voir accomplir d'autres exploits pour l'amour de leur mère.
C'est beau, formidable. Hein. Ben c'est beau, c'est beau. Mais il y a encore un peu le côté épique,
Second Empire. C'est vrai, il y aura cette sempiternelle rengaine assez pitoyable des survivants de l'Empire qui essaieront de contrecarrer tous les assauts dont le régime sera la victime après coup. C'est vrai quand Zola publie La débâcle, où tout un tas d'anciens compagnons de l'empereur écriront dans les journaux, écriront à Zola pour lui expliquer combien il a déformé la réalité, notamment en grossissant l'importance du train de l'empereur sur le champ de bataille, alors que ce train est réduit à quelques fourgons, etc. Et c'est assez triste de voir ça, parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le régime s'est effondré presque de lui-même. Il s'est effondré à cause d'une défaite militaire, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que rarement une révolution aura fait aussi peu de bruit, aussi peu de morts que la chute du Second Empire le 4 septembre. Il a suffi d'un petit mouvement de rue et puis pouf, il est tombé comme un fruit mûr.
C'est ce que vous racontez dans cet excellent livre, donc, qui est un récit, puisé aux meilleures sources, Nicolas Chaudin, L'été en enfer, Napoléon III dans la débâcle. Vous, demain, continuez cette série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire donc du Second Empire, avec un documentaire, Anaïs Quin,
oui, un documentaire. Là, on s'inscrit dans les coulisses du faste, puisque avec Françoise Camard, on a essayé de restituer un bal costumé, car les bals costumés politiques sont spécifiques au Second Empire. Ils n'existent pas avant, pas vraiment après. Et donc, on a essayé de reconstituer un bal qui se passe justement chez le duc de Morny en 1859.
Extrait.
Vous savez, messieurs, que la fin du carnaval a été signalée par un véritable déluge de bals costumés. C'est ainsi que le 28 février, il y avait bal costumé chez monsieur le ministre d'État, le 2 mars, bal costumé chez monsieur le comte de Morny, le 5 mars, bal costumé aux affaires étrangères, et le 7, enfin, bal costumé chez l'impératrice. Et je ne parle ici que des fêtes officielles, sans compter toutes les réunions particulières qui ont été nombreuses.
À nos yeux d'hommes et de femmes du XXe ou du XXIe siècle, et à nos yeux d'historiens, il y a quelque chose d'assez surprenant à observer le calendrier de la vie mondaine pour le monde officiel. C'est-à-dire que ce sont des ministres, ce sont des conseillers d'État, des ambassadeurs, parfois des préfets, qui sont conviés à des bals masqués, qui commencent extrêmement tard dans la soirée. Pour le 19e siècle, les plus tôt commencent vers 21h30. La plupart du temps, ils commencent vers 22h, mais parfois à 23h. C'est le cas de bal masqué chez Persigny, par exemple, dont on a des traces, qui se termine fort tard dans la nuit. Et c'est ce qui fait que, du coup, on a un usage du temps ministériel absolument frappant, où il y a des nuits festives, des nuits masquées et festives, que ces hommes vivent de bout en bout la plupart du temps, et donc il y a un élément intrigant de cet usage du temps.
Le président du corps législatif et la comtesse de Morny prient monsieur Arsène Housset de leur faire l'honneur de venir passer la soirée chez eux le mercredi 2 mars à 10h. On est prié de venir en costume, époque Louis XV, avec poudre ou en domino. On dansera. Cette carte devra être remise en entrant. Réponse, s'il vous plaît.
Un extrait du documentaire qu'on pourra entendre dans la Fabrique de l'Histoire demain autour des bals costumés, les bals masqués du Second Empire.
Avec Corinne Le Goy qui est la spécialiste de l'histoire du bal costumé sur tout le 19e siècle et qui donc m'a accompagnée dans cette tentative de restitution d'une fête.
Et donc mercredi, vous vous promènerez dans la grande exposition qui vient d'ouvrir à Paris autour du spectaculaire Second Empire.
Au musée d'Orsay, flamboyant Second Empire avec les trois commissaires de l'exposition.
Et puis jeudi, eh bien, nous tenterons de nous intéresser encore à ce Second Empire, mais de manière différente, avec deux historiens, donc avec Éric Anceau et avec Jean-Claude Yon. Merci à tous les deux, merci à vous, Xavier Mauduit, vous êtes auteur avec Corinne Ergas du flamboyant Second Empire chez Armand Collin, et également du ministère du Faste, votre thèse chez Fayard, et Nicolas Chaudelin, je le rappelle, il faut lire L'été en enfer, Napoléon III dans la débâcle, publié en collection de poche Babel, Actes Sud. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Pierrick Monsigny était avec nous à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pourrez y télécharger séparément de l'émission La Fabrique de la Guerre Froide en début de cette émission d'aujourd'hui, mais également écouter l'ensemble de l'émission donc sur franceculture.fr, la télécharger pendant l'année qui suit sa diffusion, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter Fabrique FC, c'est notre adresse.